Je soutiens bien évidemment la grève des journalistes de France Inter, parce que je pense que lorsque quelqu'un décide de se mettre en grève et de perdre du salaire, c'est qu'il a quelque chose à défendre. Cependant, j'espère que lorsque les journalistes de France Inter auront repris le travail, ils feront à l'égard d'eux-mêmes ce qu'ils ont fait à l'égard des enseignants et à l'égard des intermittents du spectacle et à l'égard des cheminots et à l'égard des autres, à savoir interviewer un certain nombre d'auditeurs qui diront à quel point ils ont été gênés par cette grève et à quel point ils se sont sentis pris en otage par un service public pour lequel nous payons une redevance. Bien évidemment, je plaisante. Simplement, j'aimerais bien, quand les journalistes parlent des grèves des autres et pas des leurs, qu'ils soient un petit peu plus cléments et qu'ils donnent plus d'informations sur ce pourquoi les gens sont en grève et pas pour les quelques personnes qui sont dérangées. C'est vrai, ça dérange quand les autres ont quelque chose à réclamer. Mais Dieu merci, réclamons, réclamons. Au revoir.
Ça fait longtemps que j'écoute cette émission et à 38 ans... commercial, je suis bien heureux dans mes pompes, puis d'un seul coup, je viens de m'apercevoir de plein de choses. De ces images qu'on nous matraque tous les jours, des fonctionnaires qui font la grève en nous disant, vous voyez, ils sont en train de fragiliser l'économie française. Et puis, bon, en même temps, si ces fonctionnaires-là ne font pas la grève, c'est les derniers bastions qui sont capables de le faire, de nous défendre. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de les détruire, ces bastions-là. Alors aujourd'hui, moi, je m'appelle Joël, tu diffuseras peut-être pas le message. Mais aujourd'hui, je me dis qu'à 38 balais commercial, à chaque fois que je peux allumer la petite étincelle qui fait que la personne en face de moi va enfin comprendre qu'il est en train de se faire entuber, et ben à chaque fois que je ressors et que l'étincelle s'est allumée et que le gars me dit ouais c'est vrai, ouais. Et puis je dis mais faut pas rester là, là il y a des élections, faut y aller quoi, faut montrer qu'effectivement on n'est pas d'accord. Et il y en a marre effectivement que tous ces gens qui travaillent tous les jours donnent de leur sueur de façon à ce que le patron puisse s'enrichir, que les actionnaires puissent s'engraisser, ça il faut arrêter. Et la solution, pourquoi pas, une grève générale pendant 4 jours, on bloque tout, l'informatique, la bourse et tout. Et là, on les fait craquer, on les fait mettre à genoux. Une grève générale en Europe, pourquoi pas, les syndicats il y en a encore, on les a affaiblis mais il faut les regonfler. Et on fait ça, on les met à genoux et là effectivement on pourra tous bénéficier réellement du fruit de notre travail, et non pas engraisser certaines personnes.
Je vous appelle parce que j'ai été l'autre jour, samedi, dans les Halles, quand Sarkozy est passé. Puis j'ai vu un espèce de mouvement de foule, la curiosité dont je me suis approché. Et j'étais tout près de Nicolas Sarkozy. Je passais là tout à fait par hasard. Et j'ai vu Nicolas Sarkozy qui parle effectivement à des jeunes et qui leur faisait la morale. Et qui leur a dit effectivement, notamment un petit jeune qui avait pris de la prison, lui a dit mais c'est normal, 18 mois de prison. Et c'était très drôle parce que paradoxalement, Juppé a pris 18 mois de prison avec sursis, lui, le petit jeune, c'était pas avec sursis, et là, c'était pas normal tout d'un coup. Pour Monsieur Juppé, ce n'est pas normal, mais pour d'autres personnes, c'est normal. Là, il y a vraiment un point d'interrogation à se poser. Et j'ai lu dans les journaux qu'il y avait, c'était des casseurs d'extrême gauche, notamment dans certains journaux, un journal du dimanche notamment, que c'était des casseurs d'extrême gauche qui étaient arrivés. Je peux vous garantir qu'il n'y avait pas de mouvement politique. Il y a eu un mouvement spontané. Les gens se sont mis à crier à mort des choses très violentes. J'étais très étonné de ce mouvement spontané d'un coup, et des gens de tous âges qui ont dit à mort Chirac, à mort Juppé, les voleurs dehors, il y en a assez, Juppé, Sarkozy, Chirac, tous dans le même sac. Et je crois qu'il y a vraiment un problème là, il y a vraiment, on est en ce moment dans un malaise général, les gens en ont marre, et je me dis que aux élections il risque d'y avoir des surprises et j'invite les gens à voter.
J'ai écouté l'émission aujourd'hui parce que j'étais en arrêt de travail. C'est pas toujours possible pour moi, mais en futur, mais bon, j'écoute toujours l'émission avec plaisir. C'est vrai que j'avais déjà vu le film dont il était question à propos du cheval. Et puis donc j'ai particulièrement apprécié, j'ai retrouvé toute une ambiance qui effectivement n'est plus malheureusement l'ambiance que l'on trouve dans les couches populaires à l'heure actuelle, couches populaires dont je fais partie d'ailleurs, Et c'est bien malheureux parce que on a besoin de cette combativité, de cette envie de déglinguer le capitalisme, tel que je l'ai vécu, tel que mon père l'avait vécu. C'est quelque chose, je pense, sont des valeurs qu'il faudrait quelque part retrouver. Parce que on est en train de se faire manger bien profond là en ce moment.
Là, ce soir, je ris. Je ris parce que j'étais au lycée avec Gilles Balbastre, François Magendy, et quand je l'entends parler de lui, on avait 14 ans, oui, c'est vrai, on militait déjà beaucoup, on faisait des comités de grève dans la cour de l'école contre la réforme Abyss, et c'est extraordinaire. Alors, ça me fait vraiment beaucoup plaisir de voir que Gilles Balbastre n'a pas changé. Lui est journaliste, moi, je suis directrice d'une école maternelle en ZEP, et voilà, il faut qu'on se batte, hein, et toujours, et toujours, et toujours. Allez, merci et à bientôt.
Eh bien, ça continue aujourd'hui. Le chômage a une histoire, deuxième partie. C'est un film de Gilles Balbastre. Alors, il va être rediffusé, ce film, sur la 5. Mais tenez-vous bien, ce sera le dimanche 15 février. Bon, à 7h du matin. Il faut se lever très tôt. Et puis, deuxième partie, le dimanche 22 février à 7h du matin aussi. Donc, si vous voulez voir ce que vous allez entendre, eh bien, voilà, il faudra se lever tôt. Ces deux dimanches-là, ce que vous allez entendre, eh bien, c'est des commentaires et des analyses autour du film de Gilles Balbastre. Le chômage nous a été présenté pendant des années comme une calamité, une crise, quelque chose de, voilà, contre quoi on était bien impuissant. Eh ben non, là, on essaye, à travers le travail que Balbastre a fait, de montrer qu'il y a une histoire, qu'il y a des idées, qu'il y a des enchaînements, qu'il y a des causes, et que peut-être on pourrait, si on éclaire les causes, eh bien agir politiquement, agir. Voilà, on sera avec Stéphane Beau et Michel Pialou, deux sociologues, ainsi qu'avec Serge Halimi du Monde Diplomatique. On a aussi beaucoup de messages au sujet de la grève des journalistes de l'information. On en a diffusé un. En très grande majorité, ce sont des messages de soutien. Et vous nous demandez, ou vous me demandez, pourquoi vous n'êtes pas en grève, vous. Alors, il faut rappeler qu'il y a les journalistes de l'information, et puis il y a les programmes, les journalistes des programmes. C'est pas les mêmes statuts, c'est pas les mêmes conditions de travail, c'est pas les mêmes catégories de personnel, comme on dit, mais nous ne sommes pas en grève pour l'instant, mais ça pourrait venir très rapidement. Et en attendant, nous continuons évidemment d'être solidaires des journalistes de l'info pour leurs revendications salariales et pour la défense du service public qui, effectivement, semble être menacé à travers ce conflit. C'est ce qui est à redouter et c'est ce que ce conflit révèle. D'autres messages sur le répondeur de la BASI, j'y suis, 01 56 40 37 37.
Je suis chauffeur routier là et ça m'arrive très souvent de vous écouter. Vos émissions sont souvent très intéressantes. Et cependant, aujourd'hui là, j'écoutais l'émission et on dirait qu'on fait des grandes découvertes quand on parle d'autogestion et de solidarité entre les ouvriers, tout ça. Moi, depuis que je suis petit, et depuis que je vais à l'école, je ne suis pas allé à l'école longtemps parce que je suis allé jusqu'à 16 ans, après j'ai fait un CAP pour être ouvrier moi-même, et on ne m'a jamais appris l'autogestion à l'école, ni rien. Pourtant, mes grands-parents qui étaient espagnols m'ont raconté que pendant la guerre d'Espagne, toute la Catalogne et tout l'Aragon ont vécu une situation d'autogestion pendant presque 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'on les trucide par lui. Bon, ça a mal fini. Alors, moi, on m'a vacciné avec la révolution russe, là, pendant des trimestres entiers à l'école, on m'a bassiné avec la crise économique de 1929, on m'a fait chier tant et plus, tant qu'on a pu, mais jamais on m'a parlé de ce qui s'était passé durant presque 3 ans de l'autre côté des Pyrénées. Pourtant, je suis pas bien loin, moi, j'habite à Toulouse, c'est pas quand même, c'est pas la Sibérie orientale. Hein. Enfin, voilà, c'était juste une réflexion comme ça.
Question de mon fils ce soir, entre la poire et le fromage. Papa, Mon fils a 12 ans. Papa, ce truc, liberté, égalité, fraternité, c'est encore valable? Voilà, c'est tout ce que... ça m'a fait marrer. Ou alors c'est triste. Voilà, bonsoir à tous.
Bonjour Daniel Mermet. Pourrais-tu nous donner des nouvelles de Moustache de Calais, l'ami Moustache qui va être traîné en justice pour avoir donné à manger et hébergé des gens de Sangatte qu'on jetait à la rue? Tu en avais parlé il y a quelque temps. Et je voudrais dire que le gouvernement met en place une justice à deux vitesses. Il y a la loi Perben là, qui secoue les avocats et les magistrats qui s'opposent à elle avec raison. Et on criminalise les exclus, les sans-papiers, on criminalise les syndicalistes, on l'a vu avec José Bové notamment. Et pour eux, c'est tolérance zéro. Mais pour les puissants, on veut freiner la justice. Moi, je comprends la colère de l'abbé Pierre. Il y a un acharnement gouvernemental contre les pauvres. L'affaire Juppé est indigne. Il y a des choses bien plus révoltantes. Savez-vous qu'à Vitry-sur-Seine, on veut expulser et jeter à la rue des familles entières qui survivent dans des immeubles voués à la démolition ou sur des terrains vagues, dont des Roms d'ailleurs, dont tu as parlé. On veut mobiliser la police et la justice contre eux. Je voudrais en profiter pour dire que samedi matin, 7 février à 11h, à Vitry, un maximum de personnes sont appelées à manifester leur solidarité avec ces pauvres qu'on criminalise pour refuser qu'on les expulse. Eux, ils ne détournent pas des millions, ils ne bénéficient pas d'emplois fictifs. Les gens qui les aident, comme Moustache à Calais, ne sont pas des criminels, mais font leur devoir de citoyens. Eh bien, le gouvernement crée un délit de solidarité, et des citoyens à Calais qui ont hébergé des réfugiés de Sangatte, jetés à la rue, sont traînés en justice et encourent des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison ferme. On hallucine. Et ces mêmes gouvernants voudraient par contre que la prise illégale d'intérêt, dont est reconnu coupable Juppé, ne soit pas sanctionné, pas même par une peine avec sursis. La tolérance zéro, c'est pas pour lui. Je me demande si le président Chirac est encore garant de l'indépendance de la justice. Enfin, la réponse est dans la question. Voilà. Ben, bon courage, Daniel, et bon courage à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. Au revoir.
Grâce au syndicat, et par le truchement du dialogue, tu seras l'égal du patron. Dans le dialogue, hein. Parce que dans le détail, tu seras payé moins, puis c'est toi qui balayeras la cour. Ah bon, je perds pas mon boulot. Non, non.
Ah ben, ça va.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Gilles Balbastre, Stéphane Beau, Michel Pialou et Serge Halimi. Le chômage a une histoire.
Flight number 2.
Qu'a-t-on fait pour le peuple? Mais voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pour le peuple? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs? Qu'a-t-on fait pour les paysans? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers? Qu'a-t-on fait pour les commerçants? Qu'a-t-on fait pour les artisans? Qu'a-t-on fait pour les cadres? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales? Alors je vois qu'on m'a compris.
Notre objectif prioritaire, c'est combattre le chômage. Moi, je suis Premier ministre du gouvernement, je me considère comme un chef de guerre contre le chômage. Nous allons entrer en guerre contre le chômage. Les Français verront que le gouvernement se bat contre le chômage.
Mais monsieur, ni vous, ni moi, n'y pouvons rien dès lors qu'en automatisant la troisième révolution industrielle depuis le début du 19e siècle, dès lors que on peut fabriquer plus vite et pour moins cher des produits. Et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, et moi aussi, aux chefs d'entreprise, ils iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et le meilleur profit.
Autrement dit, trois qualités, imaginatif, vendeur, meneur.
C'est ça la voie, à mon avis. Le travail redevienne une valeur dans la société française. Une valeur pour la France et pour tous les Français.
Alors en tant que chômeur, je remercie tous les enfoirés. Je remercie les enfoirés de gauche qui nous ont fait croire que c'était la droite qui savait pas gérer et que c'est pour ça qu'on était dans la merde. Je remercie les enfoirés de droite qui nous ont fait croire que c'était à cause de ce qu'avait fait la gauche qu'on s'en sortait plus. Je remercie les enfoirés de patrons qui nous ont fait croire que c'était à cause de l'État qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Et je remercie les enfoirés de syndicalistes qui nous ont fait croire que c'était de la faute au patron. Les enfoirés, se rejetant la faute les uns sur les autres, finalement, qui c'est qui l'a dans le cul? C'est nous, c'est feu coin cul.
Alors les chômeurs, lundi, qu'est-ce qu'ils mangent?
Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Et dimanche, oh quelle chance, pour le dessert des pommes de terre.
En octobre 1975, Phil Balbastre, on passe le cap des 1 million de chômeurs. Et là, il y a des extraits d'un documentaire tout à fait saisissant, où notamment on voit un cadre qui explique ce que c'est que le chômage, son chômage.
Alors je me mets en bureau. Je prends mon cahier, qui n'est pas mon premier cahier malheureusement, mais qui est mon deuxième cahier.
Dans un deuxième document intimiste, les dossiers de l'écran font découvrir à une large partie de la France encore préservée du chômage, le quotidien d'un cadre supérieur à la recherche d'un emploi.
Oui, vous me disiez que ça n'était pas le premier cahier. Qu'est-ce que vous faites sur ce cahier avec ce cahier?
Écoutez, sur ce cahier, c'est bien simple. Je découpe les annonces auxquelles j'écris. Et je les colle avec les réponses qui me sont données.
Ça représente des réponses à combien d'annonces?
Mais écoutez, pour l'instant, ça correspond à 268 courriers, donc 268 curriculum vitae que j'ai adressés. J'ai eu environ 260 réponses, 250 réponses.
Combien?
240 négatives. Pour quelle raison? Ça, je n'en sais absolument rien.
240 négatives sur 260.
Négatives, oui. On ne dit pas. On dit, monsieur, même dans les 48 heures qui suivent la réception de la lettre, on dit, monsieur, votre profil ne correspond pas.
Même si le chômage des cadres est encore quantité négligeable par rapport à celui des ouvriers, ce genre de document est révélateur de l'inquiétude ambiante. Le lendemain de l'émission, l'éditorialiste du Monde, Claude Sarraute, titrera son billet « La plaie béante du chômage ».
On voit bien la période 75-80, c'est une période de transition finalement. Et notamment, je pense qu'il y a effectivement une pédagogie du chômage. Il faut montrer que ça peut atteindre même un cadre. Ça atteint bien sûr les ouvriers, mais aussi même un cadre.
Il y a des
journalistes comme de Closette qui expliquent au bon peuple que ce qu'il faut savoir du chômage, de la réalité économique. Mais il me semble qu'effectivement la question, c'est un peu le seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'on sent qu'à l'époque, le seuil de tolérance du chômage est bas. Quoi. 1 million, c'est déjà beaucoup, c'est un seuil. Et donc, il y a ce rapport de force dans la société qui fait que on a encore peur de la classe ouvrière, du monde des salariés, qui est syndiqué, qui sait se défendre, qui est actif au niveau des grèves, etc. Tout ça, effectivement, a basculé, laminé par la vague du chômage. C'est pour ça que cette période 75-80 est très intéressante. Oui. On le voit aussi dans les entretiens avec les syndicalistes. Il y a encore un moment où il y a encore les bénéfices, si on peut dire, de la presse 68 qui sont encore là.
Et la preuve, c'est qu'en termes d'économie, on est encore dans une économie très assistée et très encadrée par l'État. Chirac, quand il arrive en 74, fait un vrai plan de relance. Il embauche à peu près 40 000 fonctionnaires, notamment des lignards. On rattrape le retard à France Télécom, enfin à l'époque on dit au PTT, de notre retard au niveau du téléphone. On embauche 40 000 fonctionnaires. Chirac embauche 40 000 fonctionnaires. On augmente les prestations sociales, on fait un plan de relance, bon, qui n'est pas autant, parce qu'il n'y a pas tout ce côté nationalisation, mais qui ressemble par certains aspects à celui de Monroy en 81.
Il est même plus important.
Mais dans certains aspects, effectivement. Mais il n'y a pas les nationalisations, il n'y a pas tout ça à côté, bien sûr, ça on peut pas. Mais au fond, c'est ça qu'il faut entendre, c'est que même pour la droite, dans ces années-là, une économie libérale de marché est encore aberrant. Ce sont des mots aberrants. On ne laisse pas le marché tout faire.
On n'a pas oublié ici le programme du candidat François Mitterrand qui, en 1981, s'engageait devant les Lorrains à ne plus licencier dans la sidérurgie. À Longwy, il ne fait plus bon être député socialiste.
Nous, ouvriers, nous vous démissionnons. Nous vous démissionnons. Nous ne vous connaissons plus.
La gauche, elle a été élue par nous, et puis c'est de la trahison, pure et simple. Hein. Nous, on attendait autre chose. On a voulu la nationalisation, on s'est battu pour ça. Ça changeait quoi? Ça rien changé du tout.
Parce que moi, je travaille dans une usine que la grève dépend directement du stock. C'est pas pour dire du mal, hein, c'est l'histoire de France qu'on raconte. Vous avez par exemple Lippe, là, Boussac, la Manu France. Ne m'appelez plus Manu France. La France est mal laissée tomber. Et à Zorro, j'y vais arriver. Parce que le maire de Saint-Étienne, où il y a Manu France, c'est un maire communiste. Il savait pas pourquoi il avait été élu aussi facilement. Eh ben, il vient de comprendre, là.
Si un jour, on atteint les 500 000 chômeurs en France, ce sera la révolution, ainsi s'exprimait Georges Pompidou en 1967. En 1967, il y avait 250 000 demandeurs d'emploi en France. 35 ans plus tard, on en est aux chiffres que vous connaissez. Et que s'est-il passé en 35 ans? Eh bien, à l'époque, le travail était une richesse. Le travailleur produisait une richesse. Et aujourd'hui, le travail est devenu un coût et le travailleur est devenu un boulet. Nous ne sommes plus en plus. Aujourd'hui, nous sommes en trop. Comment s'est opérée cette mutation, ce changement social important pour des sociologues comme Stéphane Beau et Michel Pialoux qui sont avec nous, qui sont les auteurs de Retour sur la condition ouvrière, un livre qui a fait date chez Fayard. Eh bien, la peur sociale a changé de camp au cours de ces 35 années d'histoire du chômage. Y a-t-il là-dedans que de la fatalité, que des forces conjoncturelles, structurelles, inévitables? Ou bien pouvions-nous agir différemment? Pouvons-nous aujourd'hui agir différemment, nous, c'est-à-dire les politiques, les syndicalistes, les salariés, enfin toute une société? Pouvons-nous reprendre les choses en main, comme on disait jadis? Sur quelle partie pouvons-nous agir? C'est des questions qui ont l'air qui avaient l'air saugrenues au cours des années 80 et qui aujourd'hui deviennent un petit peu plus sensibles et un peu plus importantes, il faut bien le dire. Donc on est avec Stéphane Beau et Michel Pialoux, je l'ai déjà dit, avec Gilles Balbastre et avec Serge Halimi du Monde Diplomatique. Comment l'idéologie libérale s'est-elle progressivement installée, imposée, justement comme inéluctable, comme moderne? On parle de notre hexagone, mais cette révolution conservatrice, elle venait de plus loin. Elle était en même temps, elle s'est produite en même temps que des gens comme Reagan ou Thatcher dirigeaient les États-Unis ou le Royaume-Uni. Et cette révolution a été accompagnée par des intellectuels, par des journalistes, par qui ont fourni l'habillage, si on peut dire, idéologique, notamment aux États-Unis dans les think tanks. Serge Halimi.
Oui, si on essaie d'analyser le basculement des idées, il faut voir qu'à partir des années 60, il y a un certain nombre de penseurs qui, dans des think tanks, qu'il s'agisse de l'American Enterprise Institute, qu'il s'agisse de Brookings ou d'autres think tanks au Royaume-Uni, décident de ne pas tellement s'intéresser au combat partisan, décident de ne pas tellement essayer d'influencer un parti, mais de transformer la structure de l'idéologie dominante, pour que tous les partis, quels qu'ils soient, soient obligés de jouer sur le même terrain. Il faut voir que dans les années 70, tous les partis, quels qu'ils soient, droite et gauche, jouent sur un terrain qui est largement interventionniste. Richard Nixon, président républicain, dira « Nous sommes tous keynésiens maintenant ». 20 ans plus tard, tous les partis, quels qu'ils soient, jouent sur un terrain qui est très largement libéral. William Clinton, président démocrate, dit « L'ère de l'État fort est révolue ». Donc il y a eu une volonté délibérée et qui a été une volonté très largement gagnante de transformer les termes du débat idéologique pour que tous les partis, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, appliquent les mêmes politiques. Et c'est ce qui explique en partie la montée de l'abstention dans les pays occidentaux. C'est effectivement la prise de conscience d'un certain nombre d'électeurs que l'alternance ne change rien. Parce que, quels que soient les gens qui arrivent au pouvoir, ce sera pour appliquer la même politique. Ça se produit en France, mais ça se produit aussi à l'étranger. On le voit donc aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni à l'heure actuelle où Blair est le digne héritier de Margaret Thatcher, on le voit même dans un pays qui est moins connu mais qui à mon avis est plus emblématique comme la Nouvelle-Zélande, où c'est une coalition de gauche qui lancera une vraie vague de privatisation, qui mènera une politique économique néolibérale qui rompra avec une politique interventionniste pratiquée par un gouvernement de droite. Donc en quelque sorte les clivages politiques traditionnels ne sont plus pertinents. Le climat idéologique, le climat social a tellement changé que les partis politiques qui ont vocation à gouverner, quels qu'ils soient, sont presque contraints systématiquement d'appliquer la même politique.
C'est l'histoire d'une défaite sociale en fait, c'est 35 ans. C'est 35 années d'histoire du chômage, c'est l'histoire d'une défaite sociale ni plus ni moins.
Oui, d'une défaite politique aussi. Et c'est vrai que c'est l'écrasement peu à peu. On verra aussi dans les années 80 comment ça va se passer autour de la mise en place de la flexibilité. Hein. Ça va pas être facile. En 83-84, les négociations vont échouer entre le patronat et les syndicats pour mettre en place de la flexibilité. C'est extraordinaire dans le film. Maire, on a été voir Edmond Maire et Nota et Maire nous dit, nous on était d'accord. Nous, les dirigeants de la CFDT, on était d'accord. Mais la base, elle voulait pas. La base voulait pas encore la CFDT. Ils n'avaient pas tout viré la base. Enfin, ils n'avaient pas viré la base un peu à gauche. Ils l'ont viré après au congrès de 78. Et là, effectivement, ils ont viré tous les contestataires qui faisaient aussi qu'ils refusaient de signer la flexibilité. Donc la CGT, la CFDT va refuser de signer la flexibilité, un accord sur la flexibilité. Et c'est Fabius qui l'introduit et qui la ramène et qui font, avec Delbar, notamment, une loi sur la flexibilité. Et au fond, ça se fait pas comme ça. Enfin, ça va être dur. Ça va être assez long quand même. On va le voir, ça va être toutes les années 80, pour rogner le droit, les acquis des salariés, notamment qu'ils ont obtenus après-guerre et dans ce début des années 70. Ça va être un combat de 10, 15 ans avec un certain nombre de trahisons, parce que là, il faut dire ce mot-là. La CFDT a trahi, un certain nombre de politiques ont trahi, notamment au PS, mais aussi au PC. Et après, des intellectuels. Alors là, un certain nombre d'intellectuels. On n'est pas en train de voir les traits, de faire un procès, mais c'est la faiblesse, du coup, des cris qui vont aussi accompagner les batailles syndicales et les batailles du monde ouvrier.
Et oh, on rentre du boulot. Et oh, et oh.
La joie par le travail, on en est loin. Refuser le travail, comme au début des années 70, sur le mode « on ne va pas perdre sa vie à la gagner », la critique du boulot, les prisonniers du boulot font pas des vieux os, tout ça c'est des vieilles lunes. Il s'agit bel et bien de bosser. On a tous été rejetés du bateau, du canot de sauvetage, et il s'agit de s'accrocher maintenant au bord. Et il y a régulièrement quelqu'un, alors quelle main, qui nous tape sur les doigts et qui nous renvoie très loin. Il y a un dessin magnifique de Sampé, qui est ce petit personnage de Sampé, et qui dit « Moi, j'ai toujours rêvé qu'un jour, quelqu'un traverse la rue et vienne à moi et me dise oh, « Heureusement que vous êtes là, sans vous, il aurait manqué quelque chose à l'histoire de l'humanité. » Eh bien, c'est ce refus, cette relégation collective, individuelle surtout, qui s'est produite, qui caractérise ces 35 années finalement, au cours desquelles le chômage s'est installé, les inégalités se sont installées et ont été admises, acceptées comme on accepterait un changement de climat, tout simplement, comme une épouvantable tempête qui nous aurait frappé, à laquelle il aurait fallu se soumettre. À partir des 80, la gauche arrive au pouvoir, et pour reprendre l'expression de Serge Halimi, là, la gauche essaye. Elle essaye au moins pendant un an, Serge Halimi.
Oui, pendant 18 mois, jusqu'en juin 82. Et après, quand les premières difficultés économiques assez largement prévisibles se produisent, la question est de savoir comment ces difficultés économiques vont être interprétées. Et compte tenu du climat idéologique dominant et du rapport de force sociale, ces difficultés idéologiques vont être interprétées à travers une grille de lecture conservatrice, néolibérale. On s'est planté parce qu'on a appliqué des politiques trop à gauche, donc on va faire comme Thatcher, on va faire comme Reagan, on va faire comme ce qui se passe ailleurs.
Et Qui dit ça?
C'est ce que les intellectuels d'abord essaient d'expliquer, et c'est ce que les dirigeants de gauche acceptent. Il faut voir qu'en 82, il y a quand même une date très importante dans l'histoire économique et sociale, c'est l'arrêt de l'indexation des salaires sur les prix. À partir de ce moment-là, la classe ouvrière va perdre son pouvoir d'achat. Cette évolution qu'on avait déjà observée ailleurs, elle se manifeste aussi en France. Et il faut insister sur le fait que ça s'est passé effectivement sur fond de défaites ouvrières à l'issue de grèves très dures. Et pas seulement en France. Aux États-Unis, Reagan arrive au pouvoir, grève des contrôleurs aériens, il licencie, il révoque 10 500 grévistes qui n'ont plus de travail du jour au lendemain. Au Royaume-Uni, ça se produira un peu plus tard avec la grève des mineurs de 84-85, qui est une énorme défaite pour le mouvement ouvrier britannique. En France, il y aura pratiquement la guerre sociale dans les régions sidérurgiques. Donc il y aura un certain nombre de conflits très durs qui se traduiront tous par des échecs de la classe ouvrière qui indiqueront suffisamment aux classes dirigeantes qu'elles peuvent y aller, qu'il n'y a plus d'obstacles majeurs et qu'il est maintenant temps de procéder au grand ajustement, à la grande revanche sociale sur ces conquêtes qui avaient été concédées dans les années 60 et dans les années 70.
Selon vous, Stéphane Beau et Michel Pialoux, pourquoi la classe ouvrière à cette époque-là échoue-t-elle ?
Beaucoup de raisons, hein. Il y a des nouvelles thématiques idéologiques. On ne les a pas évoquées, mais par exemple, le thème de l'exclusion apparaît à ce moment-là, où se constitue fortement le thème de la nouvelle pauvreté. Et il y a cette idée qu'il y a une grande classe moyenne qui existe, qui se gonfle et qui inclut ceux qui étaient autrefois du côté des ouvriers. Et puis, il y a une coupure nette, il y a les exclus vis-à-vis desquels il faut mettre en place de nouvelles formes de traitement ou des choses de ce genre. Et tout ça est accepté, y compris par les organisations politiques ou les syndicats, sans grande protestation, comme allant un peu de soi. Donc les nouvelles lignes de l'espace social, elles se constituent à ce moment-là. Et
il y a pour remplacer la lutte des classes. On ne peut plus entendre parler de lutte de classe. On dit il y a une classe moyenne, un ventre mou, là, puisque les ouvriers sont enrichis. Bon, ben voilà, on parle plus d'ouvriers, c'est ça que vous dites ?
Voilà, voilà.
Et puis,
voilà.
Il y a les exclus, ben c'est les perdants. C'est un peu winner-loser, quoi. Il y a voilà. Les gagnants, les perdants.
Voilà.
Je vous confie 25 personnes avec des pioches. Je vous demande de me creuser un trou de 10 mètres sur 10, et je chronomètre. Avec les mêmes, il y en a un qui va mettre, avec son équipe, 2 minutes 30. Il y en a un autre qui va mettre 2 jours et demi. Avec les mêmes pioches, avec les mêmes types. Il y en a un qui saura leur expliquer comment faut faire, pourquoi faut le faire, pourquoi faut le faire vite. Puis il y en a un autre qui aura mal avec eux, qui saura pas leur dire, et le trou, il se creusera jamais. Autrement dit, trois qualités. Imaginatif, vendeur, meneur.
Il n'y a pas de moyen plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. Aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes, ce que vous voulez, rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté tout simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain. C'est ça la réalité des choses.
Dans le film de Gilles Balbastre, on voit des syndicalistes qui étaient des acteurs à l'époque, pour Edmond Maire, Segui, Vianney, Krasucki. On voit aussi des représentants syndicaux d'aujourd'hui, comme Nicole Nota, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce moment où la classe ouvrière, pour reprendre votre expression, ne trouve plus dans le syndicalisme son expression politique, son existence sociale?
Oui, il y a un point tout à fait important, c'est les jeunes qui vont décrocher.
C'est quand ?
Ah bah à partir de ce début des années 80, hein, lorsque
la gauche arrive.
Lorsque bah oui, en même temps, c'est l'explosion de la précarité, c'est l'explosion des CDD, c'est l'explosion de l'intérim,
de tous ces aménagements hein, du voilà, travail qui vont biaiser le SMIC. Au fond, on va trouver des métiers, des formes de statuts sociaux bâtards, les TUC, les CES, etc., les contrats d'emploi de solidarité, et au fond, on les met en marge d'un statut. Et comment voulez-vous, quand vous êtes en marge d'un statut, vous syndiquez ou être en rapport avec les syndicats qui, bon, ne sauront pas trop gérer ça, effectivement, mais...
À la fois, il y a la peur, parce que si on se fait repérer comme proche des syndicalistes, c'est très important, cette peur va dominer. Hein. À partir de ce moment-là, s'approcher d'un syndicaliste, c'est se faire repérer et être exclu. Et puis, il y a aussi le sentiment que vos intérêts coïncident pas avec ceux des générations générations âgées. Et ça, c'est très fort, hein, aussi. La conscience que les jeunes ont de la distance qui, objectivement, de plus en plus les sépare des autres, ça devient important.
C'est juste aussi rajouter quelque chose sur l'aspect idéologique. Il me semble aussi que dans ces années 80, il y a aussi le fait que il y avait quand même l'espoir communiste, quoi, l'espoir des pays de l'Est. Et on voit très bien que quand on fait des entretiens avec les jeunes, c'est cet aspect-là, le fait même qu'on puisse comme ça espérer changer la société avec la crise des pays de l'Est, l'effondrement du mur de 89. Effectivement, en 89, on voit très bien que pour les jeunes ouvriers, c'est tout à fait différent. Il y a pas cette socialisation politique qui se faisait via les jeunesses communistes, etc. Il me semble que là, on voit très profondément une rupture entre les générations ouvrières. C'est pour ça que, quand on dit classe ouvrière, c'est vrai que c'est un mot qu'il faut déconstruire aussi. Il faut analyser la manière dont le groupe ouvrier s'est constitué selon les générations. Et c'est vrai, là, on pense aux travaux de Gérard Noiriel sur, il raconte très bien comment il y a une génération singulière en France qui s'est créée entre 36 et 45 et qui a porté littéralement le groupe ouvrier pendant 30 ans et qui était cette génération des acquis avec le poids dont parlait Michel Pilloux, très important, des ouvriers professionnels. Donc si on avait le temps, rencontrer en détail la transformation morphologique du groupe ouvrier.
J'ajoute encore une chose, mais qui est très importante, c'est les intellectuels, dans les années 68-75, ils ont fait des choses avec les ouvriers. Hein. Nous, on a suivi les travaux des cinéastes, mais à Sochaux, il y avait un groupe Medvedkin qui réunissait des cinéastes, Godard, Bruno Muel, beaucoup d'autres gens qui ont fait de nombreux films. Mais le rapport à la culture chez ces jeunes-là, et c'était un rapport de fascination que des jeunes ouvriers d'aujourd'hui ont de la peine à concevoir, à imaginer.
Où les CE, par exemple, travailler sur la culture et se contentaient pas de faire l'heure de Noël comme maintenant, ou de faire des places, des comités d'entreprise, ou font des places gratuites ou moins chères pour Euro Disney. Enfin, je veux dire que on résume aussi là, on est dans une émission. Il y avait des rencontres possibles. Il y a de moins en moins de rencontres possibles. Et ça, effectivement. Et ça, d'avoir fractionné comme ça la société, de l'avoir en fait au fond individualisé, il y avait des collectifs, on peut résumer ça aussi, et une des façons aussi, ça va être de briser le collectif, et de briser le collectif même dans les négociations. Une grande idée du patronat, ça va être de casser les conventions collectives aussi, et de faire que il y a le mérite, hein, il y a l'individualisation des situations. On ne grimpe plus parce que on attend d'ancienneté, parce qu'on rentre dans une grille, mais parce qu'on est compétent. Et un certain nombre, notamment de classe moyenne, vont jouer ce jeu-là. Vont jouer ce jeu, mais bien sûr, attendez, c'est pas parce qu'ils ont ça en eux, hein, parce que ça va être travaillé par la culture, ça va être travaillé par la télévision, ça va être travaillé par le cinéma, par la littérature, par tout ça, de l'individualisation. Hein. C'est soi, on se réalise soi, etc. Et que quand on est soi, on a du mal à se retrouver avec l'autre dans un collectif. Et ça va être alors du beurre pour les classes dominantes, pour faire exploser tout ça et pour prendre réellement le pouvoir et pour faire changer la peur sociale de camp.
Objets, cadeaux, recherches pour grands magasins Paris et périphérie. Vendeuse, excellente présentation, expérience, CDD, novembre, décembre, fixe plus prime. Pour rendez-vous, téléphonez. Distribution, objets, cadeaux, recherche pour grands magasins. Ça m'intéresse pas. Boulangerie, 20e, recherche caissière, vendeuse, mi-temps, après-midi, repos, dimanche et lundi. Boutique de luxe, table, maison, cadeau. Boutique, recherche, vendeuse, stock 81, Alésia, Paris 14e.
Le chômage a une histoire, c'est le documentaire de Gilles Balbastre qui raconte plus de 30 années de chômage. Alors, évidemment, ça raconte une trahison, ça raconte une imposture, si on veut, ou bien ça raconte, comme on le raconte le plus souvent, d'ailleurs on raconte rien, tout simplement, ou bien on dit, ben voilà, c'est quelque chose de naturel, mais quand même de moins en moins, parce qu'on commence à prendre conscience un peu et mettre en perspective cette époque. Et c'est pas seulement des politiques, une classe politique qui tourne Kazakh brutalement au cours au début des années 80, mais c'est aussi des journalistes, des intellectuels, des artistes, des gens des médias qui étaient de gauche et qui soudain désertent ce terrain et s'intéressent à Margaret Thatcher ou à l'Amérique de Reagan. Et chez Pivot, dans l'émission du bon Bernard Pivot, bon, on voit un certain Alain
Jobin qui fait l'éloge du profit. On voit Laurent Geoffrin qui exalte le patron qui gagne. Et puis en 1984, c'est la fameuse émission Vive la crise, en collaboration avec le journal Libération, animé par Yves Montand, qui s'adresse à la France les yeux dans les yeux et qui dit « La crise, mais quelle crise ? Nous sommes riches, nous allons bien. Alors où est le problème ?»
La télévision de l'époque, en dehors du journal télévisé, s'intéresse peu aux victimes de la crise. En revanche, le nouveau réalisme économique se traduit par une avalanche d'émissions censées faire admettre aux Français les bienfaits de l'économie de marché. Vive la crise, diffusée en février 1984, est à ce titre révélatrice du retournement idéologique d'une partie de la gauche. Présentée par l'acteur Yves Montand, longtemps proche du Parti communiste, l'émission est faite pour choquer la France des années 80.
La crise ? Quelle crise ? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Bah, avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Bah, je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Mais oui, parce que nous mangeons notre faim et nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Puisqu'il y a tant de chômeurs, dit-on parfois, et puisque les services publics marchent mal, il n'y a qu'à engager davantage de fonctionnaires. Ben voyons.
Est-il souhaitable de transformer les chômeurs en fonctionnaires ?
Tout au long de l'émission, les auteurs de Vive la crise vont démolir une à une les valeurs derrière lesquelles, quelques mois avant, une partie de la gauche se rassemblait. Un journaliste de Libération, Laurent Geoffrin, n'hésite pas à fustiger les dépenses de l'État et ose un parallèle hasardeux entre le nombre de fonctionnaires et le poids du chômage.
Depuis 10 ans, la part du revenu prélevé par l'État sous forme d'impôts et de cotisations sociales est montée à près de 50%. Cet argent sert pour une grande part à financer les salaires de la fonction publique. Mais cet argent a fait défaut aux entreprises. Depuis 10 ans, l'investissement industriel a cessé de progresser. L'Europe compte aujourd'hui 12 millions de chômeurs.
Qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche ?
Oui, c'est la question à 100 francs.
Ah ben je sais pas. Non, mais...
C'est une distinction. J'essaye de faire une distinction entre un libéral de gauche et un libéral de droite. La distinction. Le libéral est quelqu'un qui croit aux vertus du marché. Le libéral de droite, je commence par là, croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique, mais qu'il faut faire en sorte de maintenir un nombre de stabilisateurs pour que la société ne bouge pas trop, même si on atteint l'optimum économique. Le libéral de gauche, croit que le marché, outre un certain nombre de vertus économiques, peut être un moyen assez brutal de changer la société, et que de ce point de vue, il faut le laisser jouer à plein.
Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin.
Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça ?
C'est excellent.
Et ça n'existait pas de votre temps ?
Ben, ça existait, le marché a toujours existé.
Mais
il valait mieux pas s'en vanter. Hein.
Ah, il valait mieux pas s'en vanter. Maintenant, on peut s'en vanter.
Le titre même de Vive la crise est un titre très révélateur. Parce que jusqu'alors, il y avait des crises cycliques, conjoncturelles, dans une économie capitaliste qui était habituelle. Et puis on revenait à l'état de choses précédent. Là, il y a l'idée d'utiliser la crise, de profiter de la crise pour transformer la donne sociale. Faire que rien ne soit plus jamais comme avant.
Donc, c'est une révolution conservatrice.
Une contre-révolution, une révolution conservatrice, qui est d'ailleurs tout à fait à l'aune de ce qui se passe ailleurs, et notamment aux États-Unis, parce que quand on dit Vive la crise, on dit Yves Montand, il faut se souvenir qu'Yves Montand, on envisagera même qu'il soit candidat à la présidence de la République, comme un autre acteur américain, suivez mon regard, Ronald Reagan.
Et le parallèle entre
Montand et Reagan sera constamment suggéré à l'époque. Et dans Vive la crise, quels sont les personnages qu'on voit ? On voit Laurent Geoffrin, on voit Alain Minc, on voit Christine Ockrent, on voit Philippe de Villiers en jeune entrepreneur dynamique. C'est comme ça qu'il est présenté à l'époque. Donc en quelque sorte, on voit tous ces personnages qui vont jouer un rôle moteur dans cette conversion idéologique, à la fois des classes dirigeantes, mais aussi de l'ensemble de la population, et dans cette conversion aux acquis de la révolution ou de la contre-révolution libérale. Parce que ce qui est intéressant dans le cas d'une émission comme Vive la crise, c'est que ces idées-là viennent plutôt de la gauche, entre guillemets. Quels sont les grands supports de presse derrière ça ? C'est surtout Libération et c'est le Nouvel Observateur. Gilles Balbastre évoquait François de Clauset. François de Clauset, il fait des papiers dans le Nouvel Observateur à l'époque, où il défend ces idées-là de remise en cause de l'État, de lutte contre la bureaucratie, contre le syndicalisme, le toujours plus, etc. Libération est le grand organe du capitalisme qui veut vraiment moderniser les choses et balayer l'État traditionnel associé à De Gaulle, à Pompidou, à une France en noir et blanc, à une France triste, pour instiller les valeurs de l'innovation, du nomadisme, de la compétitivité, de l'ouverture.
La réussite. Et Tapie va incarner ça formidablement.
Et il sera ministre d'un gouvernement de gauche.
Vous voulez que je lise le texte de Laurent Geoffrin paru dans le supplément de Libération, partenaire de l'émission? Il dit, comme ces vieilles forteresses reléguées dans un rôle secondaire par l'évolution de l'art militaire, la masse grisâtre de l'État français ressemble de plus en plus à un château fort inutile. La vie est ailleurs, elle sort de la crise par l'entreprise, par l'initiative, par la communication. Nous sommes le 22 février 1984. Au même moment, plusieurs centaines de milliers de sidérurgistes de mineurs sont licenciés. C'est le plan acier. Et là, effectivement, on aurait bien aimé avoir une caméra dans un foyer de sidérurgistes de Longwy, pour voir comment ces ouvriers qui avaient voté massivement en 81 pour François Mitterrand recevaient cette trahison par des gens qui étaient proches d'eux. Je précise que Laurent Geoffrin a été membre du CRS dans les années 70, que Attali était à gauche, que Minck se proclamait, on le voit dans l'apostrophe, libéral de gauche. C'est-à-dire, c'est une véritable trahison. On ne mesure pas, attendez pour finir, on ne mesure pas assez la violence qui a été distillée à cette époque-là. Face à une classe ouvrière en pleine détresse, elle est immense, et peut-être que effectivement le Front National et Le Pen et aussi leur production quelque part, et ça ils le diront jamais, au fond ces gens-là ont créé une immense violence, ils se gardent bien aujourd'hui de le dire, et effectivement ils aimeraient que nous sommes comme dans la situation de Big Brother, vous savez, on efface les paroles du maître, on les reconstruit, on rechange les pronostics. Eh ben nous, on veut pas, moi, je ne veux pas refaire les pronostics, je mets ce qui a été dit à cette époque. Et effectivement, ça peut faire mal.
Le message est clair. Les gagnants sont ceux qui osent et qui prennent des risques. Les perdants sont ceux qui restent accrochés à leurs acquis et sont assistés par un état-providence qu'il faut abattre. La conclusion coule de source et nous est donnée par un Yves Montand transformé par la crise.
C'est vous, et vous seuls, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi, comme ça, on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt.
Ce qui a accompagné tout ce discours, c'était « il n'y a plus d'idéologie ». Les choses ont été présentées comme allant d'elles-mêmes, allant de soi, on n'y peut rien, il y a des réalités...
Hein, naturelles,
économiques.
Naturelles et économiques, c'est la même chose, c'est comme la météo. Et puis ça vient de l'extérieur, ça vient des États-Unis, donc on n'y peut rien, ça vient... Le monde est ainsi, désormais, et on est désolé. Et il y a ce moment formidable dans votre film, où vous montrez... un François Mitterrand qu'on a vu quelques instants auparavant, militant, un véritable grand militant ouvrier, qui, face à un jeune homme dans une émission de télévision, qui lui pose une question sur l'emploi, et qui répond « Nous n'y pouvons rien ».
Monsieur, ni vous, ni moi, n'y pouvons rien, dès lors qu'en automatisant la troisième révolution industrielle depuis le début du 19e siècle, dès lors que on peut fabriquer plus vite et pour moins cher des produits. Et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, et moi aussi, aux chefs d'entreprise, ils iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et le meilleur profit.
On n'y peut rien, c'est la fatalité, renonçons. Et puis, soyons gays, si possible.
Et après, il y aura, grosso modo, un libéralisme sauvage et un autre teinté vaguement d'humanisme. Voilà. Grosso modo, c'est ça le débat et l'enjeu.
Ce que vous entendez en ce moment, ces gens qui discutent avec des idées, avec des repères historiques, etc., c'était plus du tout la mode. Il fallait pas du tout parler comme ça. C'était un discours tout à fait ringard. Il fallait admettre les choses. évidemment avec un petit sourire, écoutez, enfin c'est comme ça aujourd'hui, sinon on était archaïques.
Surtout pour ceux qui souffrent pas, hein. Surtout pour ceux qui gagnent 40-50 000 francs par mois, qui ont des acquis, etc. Parce que c'est ceux-là qui ont dit aussi, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ils disaient à ceux qui, eux, excusez-moi l'expression, ont chié, on n'y peut rien, mais eux, ça va, pour eux, s'ils avaient été à 3 000 francs par mois ou au SMIC, ou au RMI, pardon, là, ils auraient peut-être eu un autre discours. Hein.
Je sais que certains ont des pudeurs effarouchées à parler de flexibilité, mais je vois pas pourquoi. La flexibilité, c'est très bien. Il faut dire que c'est de la flexibilité. Alors on tourne, on emploie d'autres formules, je ne sais plus lesquelles, soi-disant plus pudiques, mais personne ne s'y trompe. Il faut dire que c'est de la flexibilité. Mais personne ne s'y trompe.
Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. Comme un problème permanent. Comme un problème permanent.
Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'à quelque fois 800-900 bonhommes. Tandis que vous avez des usines qui emploient 60-70 bonhommes.
En permanence, on devra veiller.
Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos
enfants. À ce que l'emploi soit assuré aux Français. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Nous serons donc en risque permanent.
La grève avec occupation des mines est adoptée à l'unanimité au début de mois. Les travailleurs manuels, intellectuels et la population exigent la satisfaction de leurs revendications.
Cette période pleine d'incertitudes va finalement déboucher sur la crise de mai 68.
Première question. À qui appartiennent les usines? À qui appartiennent les usines?
Baron Rothschild,
appartiennent
à qui?
Dassault,
Jean Prouvé.
Au printemps de l'année 1973, un conflit éclate dans la célèbre manufacture de Montrelip à Besançon. Les ouvrières de l'usine Couzeau, en Vendée, connaîtront pendant 109 jours de grève la liberté de travailler pour elles. Productivité accrue, accélération des cadences, mécanisation du travail. Depuis le milieu des années 60, productivité accrue, accélération des cadences,
deuxième mécanisation question.
Depuis le milieu des
qui
années 60,
crée dans ces usines des laboratoires, des ateliers, la richesse, les travailleurs.
Mais voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pour le peuple? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs? Qu'a-t-on fait pour les paysans? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers? Qu'a-t-on fait pour les commerçants? Qu'a-t-on fait pour les artisans? Qu'a-t-on fait pour les cadres? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales? Alors je vois qu'on m'a compris. Alors je vois qu'on m'a compris.
Troisième question. Qui en profite? Une poignée d'exploiteurs. Les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs. Mais les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes.
Général. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Merci à tous, merci à Gilles Balbastre. Je rappelle le titre de son film, Le chômage et l'histoire, qui sera diffusé, enfin rediffusé sur la 5, le samedi 15 février à 7h du matin et le dimanche 22 février à 7h du matin. Merci Stéphane Beau, Michel Pialou, Serge Alimi. Technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Olivier Leroux. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Imbert qui en a la charge. Assistant musique, Coyenne Guyenne. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste et génial. Il est 18h sur France Inter. On se retrouve lundi à 17h, peut-être.